Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. La résistance yéménite a lancé une troisième attaque contre les positions des Émirats arabes unis. Autrement dit, la résistance yéménite a visé pour la troisième fois les profondeurs des Émirats arabes unis. La résistance yéménite avait déjà lancé une mise en garde contre le régime émirati, en quoi s'il y avait la poursuite des agressions contre le peuple yéménite, il va y avoir en fait des frappes douloureuses contre les Émirats arabes unis. C'est dans ce contexte que le leader du mouvement yéménite Ansar Allah, Abdulmalek al-Houthi, a qualifié le régime israélien et les États-Unis d'ennemis numéro un pour les musulmans du monde entier. Les Américains et les Israéliens essaient d'abuser des problèmes qui s'opposent au sein de l'Oumma musulmane pour faire avancer leur propre complot, a-t-il précisé. Israël et ses mercenaires, a-t-il souligné encore, considèrent la nation yéménite comme leur ennemi commun. Et al-Houthi faisait référence aux certains régimes arabes de la région qui ont conclu des accords de normalisation avec le régime israélien, des accords de normalisation soutenus par les États-Unis. Les positions que les Émirats arabes unis, le régime sioniste, l'Arabie saoudite adoptent contre le peuple yéménite lors de leur réunion sont très claires, a souligné encore le leader du mouvement yéménite Ansar Allah Abdulmalek al-Houthi. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnon Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité. Et je souhaiterais féliciter le peuple iranien pour l'anniversaire de la révolution aujourd'hui.
Merci infiniment, merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Vaucluse. Il s'agit de M. Bernard Cornu. M. Cornu, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et bonjour à mon collègue à Damas.
Merci, merci.
J'aimerais bien aller bientôt.
Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, M. Cornu l'a dit tout à l'heure, va se rendre bientôt à Damas. Ce serait peut-être une occasion de, en fait, d'y rencontrer Maître Arnon Develet également lors de son séjour en Syrie. Monsieur de Cornu, comme première question, je viens de lancer le sujet. Comment analysez-vous ce qui se passe actuellement entre la résistance yéménite, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et également de ceux qui parrainent cette guerre d'agression contre le Yémen, très particulièrement les États-Unis?
Hélas, cette guerre au Yémen continue et surtout les Émirats arabes unis ont repris participation au combat alors qu'il y a quelques mois, ils s'étaient, avant la fin de l'année, à la fin de l'année dernière, ils s'étaient retirés de cette guerre qui dure depuis 7 ans. Et ils s'étaient, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s'était rendu à Damas pour négocier quelque chose, on n'a pas su quoi, mais il est temps d'arrêter ces guerres du Moyen-Orient, que ce soit en Syrie et que ce soit au Yémen. Et bien sûr aussi arrêter les troubles en Irak, l'intervention américaine dans la politique de l'Irak. Donc les Émirats arabes unis ayant repris leur intervention dans cette guerre, il est assez normal que les Houthis aient de nouveau attaqué et plus profondément sur le territoire même d'Abu Dhabi. Voilà, c'est, je pense que l'enjeu est d'arrêter cette guerre au Moyen-Orient et d'arrêter le soutien de ces pays pétroliers qui ont beaucoup d'argent à dépenser pour acheter des armes, des systèmes de défense et des systèmes d'attaque en gaspillant leur disponibilité pétrolière dans ces guerres destructrices.
Et d'autant plus que M. Cornu, ces pétrodollars aussi comptent beaucoup pour en fait les puissances qui soutiennent cette guerre d'agression contre le Yémen, des puissances qui se rangent du côté, si vous voulez, des agresseurs. Je parle très particulièrement des États-Unis, M. Cornu.
Bien sûr, les États-Unis ont une industrie d'armement très puissante et ont besoin d'exporter massivement vers les pays qui peuvent payer. Et ce sont effectivement les plutocraties de la péninsule arabique. Les États-Unis, on vient de l'annoncer, ont maintenant 30 000 milliards de dollars de dettes. Tout cet budget de la défense américaine, tous ces investissements dans les armes sont en fait faits avec du dollar qui est massivement endetté. Et il y a une domination, disons, médiatique et géopolitique des États-Unis qui est tout à fait abusive à cause de cette guerre massive, de cette dette massive des États-Unis et de la domination du dollar dans les échanges internationaux et dans les échanges financiers, ce qui leur donnait un pouvoir exorbitant, leur permettant d'exercer des sanctions dans les pays sans, disons, recours au droit international.
Merci beaucoup. Maître de Develi, en fait, il y avait un responsable de la résistance yéménite qui avait dit que voilà, les Émirats arabes unis se sont transformés en un outil au service du régime israélien. Il faisait en fait référence à cette visite effectuée par le président du régime israélien aux Émirats arabes unis, ses entretiens, si vous voulez, avec les responsables de ce pays. C'est dans ce contexte qu'il y a eu ce discours du leader du mouvement auprès d'Ansar Allah, dont j'ai mentionné une partie, si vous voulez, tout à l'heure, et d'autant plus que, en fait, le porte-parole des forces armées yéménites a lancé, c'était hier, mardi, une autre sévère mise en garde contre les Émirats arabes unis, Maître de Develi.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs l'aspect pervers de ces accords de normalisation, c'est que quelque part, au travers, par exemple, de l'autorisation donnée par l'Arabie Saoudite du survol de son espace aérien pour le président Herzog de se rendre à Abu Dhabi, et effectivement les déclarations ensuite par l'entité sioniste portant sur des propositions et des offres d'assistance explicites aux Émirats Arabes Unis, afin de, si je puis dire, contrer les actions de la résistance yéménite qui ne sont que des actions de fondées et ancrées en droit international dans une défense, s'ils se déforment tout simplement, laisse entendre maintenant que les masques sont tombés et qu'on peut parler d'ores et déjà maintenant d'une coalition qui ne se cache plus, ce n'est plus juste les monarchies golfiennes, hein, telles que l'Arabie Saoudite, les Émirats, mais maintenant c'est effectivement la participation ouverte de l'entité sioniste qui a très peur effectivement de la résistance yéménite, puisque la distance effectuée par les missiles et autres drones de la résistance yéménite vers Abu Dhabi sont peu ou prou les mêmes, la même distance que celle qui sépare le Yémen du port d'Elat, et en cela les sionistes sont extrêmement préoccupés parce que la résistance yéménite a vocation à, si je puis dire, assister et prendre part à la libération de Paris, hein, donc, et sans parler bien sûr du contrôle de la mer Rouge et de l'incapacité pour ces États qui souhaiteraient pouvoir établir une hégémonie sur la région, de contrôler les détroits au sud du Yémen, et partant de là, ça devient une situation maintenant où même les Américains, qui ont, il faut le rappeler, vendu pas moins de 23 milliards d'armes aux Émirats Arabes Unis, qui malgré les déclarations de l'administration Biden il y a presque un an de cela, portant sur leur désir de mettre, si je puis dire, les Saoudiens un petit peu sous contrôle, sont sur le point de vendre 650 millions de dollars de missiles qui sont en fait à nature défensive, mais plutôt utilisés pour maintenir, si je puis dire, l'offensive saoudienne en l'état. Donc les Américains ne se cachent plus non plus. Ils ont débarqué des contingents dans la province à l'est du Yémen. Ils continuent à débarquer et à assister en termes des bases de données pour les cibles. Et ce sont les civils yéménites qui en payent le prix, avec cette idée maintenant aussi de s'attaquer aux antennes de télécommunication du pays afin d'empêcher tout rapport et toute nouvelle et tout témoignage sur le terrain d'être, si je puis dire, émis dans le monde entier pour que la pression qui doit être plus que jamais mise sur les pays qui soutiennent et financent cette agression soit amenée à faire face à leurs responsabilités. Et je pense qu'il faut voir les choses dans un contexte plus élargi, parce que c'est la même méthode que l'on voit maintenant en Europe avec cette histoire d'Ukraine. Tout est manipulé. Nous sommes en présence d'une administration américaine dont le chef exécutif est extrêmement diminué, qui ne semble pas avoir toutes ses facultés. Donc, la nature ayant horreur du vide, toute une bureaucratie et une série de clics au sein d'États profonds américains s'est engouffrée dans cette... dans ce vide laissé par une absence de compétences au niveau de la Maison Blanche. Et on est en cela en présence d'une situation qui peut simultanément se déclencher de manière beaucoup plus qualitative, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Europe.
Monsieur Cornuche, tout est manipulé, pour reprendre en fait cette expression employée tout à l'heure par Maître de Develay. C'est dans un tel contexte que, par exemple, les grandes puissances, très particulièrement les États-Unis, au lieu, si vous voulez, d'agir et d'apporter leur contribution pour mettre fin à cette guerre dévastatrice contre le peuple innocent et yéménite, il y a eu cette conversation téléphonique entre le secrétaire américain à la Défense et le prince héritier des Émiratis, et à la suite, à l'issue, si vous voulez, de cette conversation téléphonique, il a été annoncé que les États-Unis vont envoyer un navire de guerre, un navire et plusieurs avions pour soutenir les Émirats arabes unis contre la menace dont fait l'objet et ce pays. Vous voyez, M. Cornuit, on dit rien lorsqu'il y a ces frappes contre des zones résidentielles au Yémen, mais lorsqu'il y a une riposte de la résistance yéménite face à un pays qui fait partie de cette coalition d'agression contre le Yémen, en l'occurrence les Émirats arabes unis, en fait, les États-Unis annoncent vouloir envoyer des navires, des bâtiments de guerre et des avions pour soutenir ce pays agresseur, M. Cornu.
Tout à fait, parce que ce sont des pays pétroliers qui ont beaucoup d'argent et qu'effectivement, les marchands d'armes américains et aussi français tentent toujours de placer les armes dans les pays qui sont très riches et ou à défaut, dans les pays dans lesquels ils peuvent négocier des garanties d'État. On a vu ça avec l'Égypte, puisque l'Égypte n'a pas beaucoup de ressources financières et que la France a vendu quand même des avions avec la garantie de l'État, ce qui est assez risqué pour les contribuables français. Tandis qu'avec effectivement les pays qui ont des excédents pétroliers massifs, des exportations, le paiement il est assuré. Voilà, donc ce sont les pouvoirs de l'argent qui dominent le monde et qui dominent nos politiques, hélas, y compris par exemple en France, où notre ministre des Affaires étrangères, Le Drian, s'occupe beaucoup plus de vendre des armes que favoriser des négociations de paix entre toutes les parties du Moyen-Orient.
Et quand même, ces armements, cette quantité massive d'armements qui a été vendue, si vous voulez, à ces pays, dont les Émirats Arabes Unis, reste quand même presque inefficace, M. Cornu, face, si vous voulez, à la résistance d'un peuple qui fait l'objet d'une guerre d'agression depuis 2015, M. Cornu.
C'est sûr qu'il y a une évolution avec maintenant l'existence de drones armés qui peuvent être télécommandés à distance et qui sont moins facilement détectables, beaucoup moins chers à l'achat et ne citant aussi pas de pilotes, donc ne faisant pas courir de risque à des pilotes, les technologies militaires nouvelles changent un peu le profil de la guerre. Et on l'a vu ailleurs, dans la guerre dans le Caucase, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on a vu que les drones armés maintenant ont une place très importante dans les stratégies militaires.
Monsieur venez de faire allusion, si vous voulez, à ces accords d'Abraham et qui ont été conclus entre le régime israélien et certains pays, dont les Émirats Arabes Unis, et le régime israélien aussi, à l'occasion de cette visite du président du régime israélien aux Émirats Arabes Unis, a annoncé vouloir en fait vendre des systèmes d'alerte rapide aux Émirats Arabes Unis. Et c'est dans un tel contexte que ce responsable de la résistance yéménite a dit que les Émirats Arabes Unis sont devenus un outil au service d'Israël et les Émiratis ont fortement tort de s'appuyer sur en fait un régime comme le régime israélien pour vouloir assurer, si vous voulez, leur sécurité, monsieur de voler, parce que la résistance yéménite semble être déterminée à ne pas céder face à ces menaces et à ces agressions.
Oui, tout à fait. Je dirais même plus loin. Je pense que des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis font preuve d'une absence de vision stratégique à long terme, puisque effectivement, la résistance yéménite a complètement changé la dynamique de ce conflit, avec somme toute des moyens en termes financiers extrêmement modestes, mais avec des résultats et une efficacité redoutables. Les Émirats Arabes Unis semblent être un peu dans cette situation où ils sont intoxiqués par la chambre d'écho, si je puis dire, concernant leur soi-disant invulnérabilité. Mais il faut qu'ils comprennent une chose, ils n'ont pas de profondeur stratégique et ce serait tellement facile pour la résistance yéménite de frapper de manière décisive et précise des cibles qui mettraient à mal tout ce qui fait en fait jusqu'à présent dans l'imaginaire l'attrait de ce pays, eu égard aux investisseurs et eu égard à l'aspect du narratif que les Émirats, c'est quelque part, à défaut de remplacer bien sûr l'Arabie Saoudite dans l'imaginaire, en tout cas, et on l'a toujours dit, est un rival. Ou en tout cas un compétiteur affirmé de Riyad. Et c'est dans ce contexte-là que je pense que Abu Dhabi se fourvoie complètement, mais j'allais dire, quelque part, c'est aussi quelque chose que l'on peut voir dans la livraison d'armement ou dans la posture diplomatique de certaines grandes puissances qui peut-être pêchent par naïveté en termes de légalisme, pensant qu'ils ont affaire à des gens de bonne, qui eux-mêmes respectent le droit international, alors que ce n'est pas le cas, et qui devraient peut-être, je dis bien peut-être, réviser leur position vis-à-vis de la résistance yéménite pour pouvoir comprendre que sur le long terme, c'est le cheval sur lequel il faut parier. Ce n'est pas en espérant à court terme faire des affaires avec tel ou tel pays, en espérant remplacer le fournisseur d'armes américain que la vision stratégique à long terme peut être de manière cohérente mise en œuvre. Et je pense qu'au niveau diplomatique, c'est la même chose. Il devrait y avoir, en plus de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Sanaa, il devrait y avoir le retour d'autres ambassadeurs et de grandes puissances et pas des moindres. afin de donner à la résistance yéménite le soutien politique et diplomatique dont celle-ci a besoin.
Monsieur de Cornut, genre une partie des propos de Maître de Velay pour vous poser cette question. Les Émirats arabes unis n'ont pas de profondeur stratégique et ils restent vulnérables face aux ripostes de la résistance. Est-ce votre avis également ?
Tout à fait. Je crois qu'il faut ici rappeler l'histoire. Toutes ces divisions d'États ont été faites, en fait, dans le Golfe, ont été faites par l'Empire britannique. Sir Percy Cox, au début du siècle, essayait, au fur et à mesure qu'on découvrait des suintements de pétrole, essayait de créer des États, de soutenir certains chefs locaux. On l'a vu à Koweït dès 1899. Ça a été en fait ensuite sur la côte qu'on appelait la côte des pirates ou la côte de la trêve. Et même l'Arabie saoudite s'est constitué avec un soutien des services britanniques, avec de l'or, des fusils, qui leur permettaient de faire des attaques envers la plaine mésopotamienne, envers l'Irak, qui leur a permis aussi, parce qu'ils avaient de l'argent et des moyens d'armes et de finances, de négocier avec le Yémen dans les années 30 pour obtenir que l'Arabie saoudite récupère la province de l'Asir par une concession très longue, qui a été d'ailleurs récemment renouvelée, l'Arabie étant en position de force et le Yémen en position de faiblesse. Donc il faut revenir à l'histoire et à toute la genèse des frontières du Moyen-Orient, qui est due en fait à l'émergence du pétrole au début du siècle pour assurer la chauffe des navires de guerre et ensuite pour approvisionner tous les véhicules diesel qui ont été construits massivement dès le début du siècle. Je crois qu'il est important de regarder à nouveau l'histoire et de défendre le droit des peuples à certaines autodéterminations. Je crois qu'il faudra un jour remettre en cause les frontières de cette région-là. Et en fait, soit l'avenir n'est que dans une unité régionale, une collaboration de ces pays, et pas du tout, et donc dans un partage aussi des ressources, de l'eau, des ressources du pétrole et du gaz, dans une sorte de fédération économique, comme nous avons tenté de le faire en Europe, après les guerres fratricides qui ont ravagé par deux fois l'Europe, le continent européen.
Merci beaucoup, Monsieur Bernard Cornu, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Vaucluse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Velay, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.